Podcast.
Je rentre de 2 fois 3 jours de déplacement où j'ai donné 8 heures de cours par jour. Je n'ai jamais été aussi conscient que j'avais des cordes vocales.
Et quoi de mieux du coup que de faire 1 heure de podcast après pour...
L'avantage, c'est que je suis chaud.
Ok, ok. Je crois que t'as mal dit usé.
Non, mais c'est toujours intéressant l'éducation aux médias parce que je me sens pas encore vieux, mais enfin, je me sens plus tout à fait jeune. Et être confronté aux gamins, là, c'est des classes de 4e et de 3e, te permet quand même de garder une certaine fraîcheur, notamment sur les questions technologiques. Quand tu leur demandes ce qu'ils utilisent comme réseaux sociaux, c'est marrant parce que tu as Facebook qui a complètement disparu alors qu'il était encore là il y a quelques années. Certaines messageries qui étaient incontournables il y a quelques années ont totalement disparu. Je suis assez fasciné par le mouvement de flux et de reflux que fait Snapchat, par exemple.
C'est vrai que c'est fascinant. Je la voyais morte, cette entreprise. Il y a 5 ans, je la voyais morte d'ici bah, là, 2022. Quoi.
Instagram, que les gamins n'utilisent pas pour publier des photos, mais pour discuter. Ils s'en servent comme messagerie, ce que je trouve... D'accord, pourquoi pas. Et puis évidemment TikTok. TikTok qui n'existait pas, qui était sur les radars de personne il y a 4 ou 5 ans et qui maintenant est incontournable. Et tu n'as, sur une classe de 24, tu n'as pas un gamin qui n'a pas TikTok. Ou le gamin qui n'a pas TikTok, c'est le gamin qui n'a aucun réseau social. Ça, c'est aussi un phénomène nouveau où maintenant, sur une classe de 24, on peut avoir 2 voire 3 gamins qui n'a pas accès à un smartphone, qui n'a pas accès forcément à Internet à la maison et où tu sens que les parents remontent au créneau et serrent énormément la vis. Et j'adore faire ça. Ça fait maintenant 8 ou 9 ans, 8 ans que je fais l'éducation média au collège. Et on pose la même question, enfin, on fait le même sondage chaque année. Et c'est fascinant. C'est fascinant parce que tu vois les choses se faire et nous dans notre petite bulle de technophiles qui connaît Glass quoi, qui connaît micro.blog, enfin personne dans la vraie vie et visiblement les vrais gens utilisent Instagram pour discuter. Moi ça me fascine.
Je pense qu'on a été ces gens-là il y a quelques années ou dizaines d'années. Tu sais, peut-être quand l'iPhone est sorti, par exemple, on a eu notre moment de... où on faisait des choses qui étaient vraiment imprévues, tu vois. Un exemple dont je me rappelle aussi, peut-être plus récent par contre, c'est toute la tendance de customisation d'iOS qui est arrivée avec je sais plus quel, le 12, je crois, les widgets.
Oui, ouais. Avec les widgets, ouais. Et où ben c'était notamment les jeunes déjà.
Ouais,
hein,
ouais. Je trouve ça vraiment merveilleux. En fait, je crois que globalement, la technologie, je suis assez contre, même si je suis complètement accro et tout.
Mais, toi
ouais. Mais je trouve ça vraiment merveilleux quand des usages inattendus surgissent. Je trouve que c'est une preuve d'humanité et qui est vraiment rassurante en soi. Je pense qu'il y a beaucoup de romantisme dans cette conception parce que ça ne veut pas dire que les usages sont meilleurs et que derrière, l'emprise de la technologie n'est pas moins forte. Mais quand même, je trouve qu'au moins il y a ça, cette espèce d'appropriation et que l'outil ne dépasse pas tout à fait la main, quoi.
Je m'inquiète beaucoup de la littératie numérique des adolescents et notamment, on voit quand on essaye de leur faire faire une recherche sur Google qu'ils sont paralysés devant le champ de recherche. Ils ne savent pas quoi taper. Est-ce qu'il faut taper des mots-clés? Est-ce qu'il faut taper une phrase entière? C'est très compliqué. Alors que scroller ad infinitum sur TikTok, il n'y a aucun problème. Un usage très passif de la technologie, il n'y a aucun problème. Un usage plus actif, c'est difficile. Mais en même temps, je trouve assez intéressant de les voir utiliser ces outils et on voit des formes de réappropriation ou des formes d'appropriation tout court d'ailleurs, qui sont totalement imprévues, quoi. La capacité des gamins à utiliser Amazon comme un moteur de recherche. Ce qui pose tout un tas de problèmes parce qu'évidemment, les avis sur les produits... pose un véritable problème sur Amazon. Mais voilà, Amazon est un moteur de recherche comme un autre. C'est quand même... ou comme tu dis, quoi. Enfin, on le voit sur les écrans d'accueil des téléphones. Alors, ils n'ont pas le droit de sortir leur téléphone au collège, mais enfin, ils nous en parlent. Et, et c'est complètement foutraque, quoi. Ils font des trucs, enfin, c'est...
Ouais.
Donc il y a encore de l'espace, quoi. Le fichier, la notion de fichier, qui leur est totalement inconnue, et c'est évident. Enfin, déjà, pour nous, c'était une mauvaise métaphore, la métaphore du bureau, on en a déjà parlé ici même. Mais, et pour eux, ça a d'autant moins de sens. Et pourtant, ils font des trucs bizarres avec la manière dont ils gèrent leurs infos. Ils s'envoient des messages à eux-mêmes, ils font des choses bizarres, ils collent des morceaux d'informations les uns aux autres et ils packagent ça dans un bout de fichier qui colle quelque part. Enfin, c'est... Ils font des trucs qui cassent toutes les nomenclatures, tous les billets de blog que tu peux trouver qui ont été écrits pour faire de la SEO, pour être bien rankés sur Google, sur comment ranger votre ordinateur, comment gérer votre temps, votre calendrier. Tous ces mecs blancs, trentenaires, qui ont fait fortune en t'expliquant comment gérer tes mails et comment changer ta vie avec cette astuce que personne ne veut que vous sachiez et que c'est le secret pour débloquer la productivité. Bah non, tout ça ils ignorent, ils font des trucs complètement bizarres. Et je crois que ça marche.
En tout cas, pour eux, ça fonctionne, ça c'est sûr.
Mais le jour où ils vont arriver sur le marché du travail, ça va être drôle.
Ça va être quelque chose.
Parce que...
non, ne serait-ce que les collègues... on le voit à l'usage de leur bureau s'ils ont un Mac ou un PC. C'est un bordel sans nom.
Ouais.
Il y a que des captures d'écran partout. Et je crois que c'est ça, leur référence de base, c'est pas le PDF, c'est pas le Word, ça, c'est la capture d'écran.
La capture d'écran.
Et pareil sur le téléphone. Et donc, en fait, le Finder, pour eux, c'est la bibliothèque de photos, quoi.
Mais où c'est ça, d'ailleurs. Ouais. Le côté, on n'utilise pas le champ de recherche, mais on scrolle. Ouais. Et on a une espèce de carte spatio-temporelle de l'information.
Exact.
Je me souviens à peu près quand elle était et où elle était par rapport aux autres images.
Exact, ouais.
Et tu fais, mais vraiment... Hein?
Oui, parce que le champ de recherche dans les photos, ils ne savent pas l'utiliser. Ils ne savent pas qu'il existe.
Non.
Ils ne savent pas non plus que le téléphone peut reconnaître le texte, tout ça, ça, ils s'en fichent. Ouais.
Et ils font des trucs, tu fais, mais pourquoi tu t'imposes ça?
Et d'un autre côté, ils ne tiennent pas leur téléphone à jour. C'est vrai, non?
Oui, oui.
Et à moins que Apple les force à le faire, ou peu importe le constructeur, les force vraiment à le faire. Et ils ont... Il y a une espèce de dédain, mais ça c'est purement la jeunesse, je pense, d'inconscience, on va dire, plus que de dédain, parce que c'est pas une attitude, c'est pas une posture, c'est une vraie une inconséquence gratuite, quoi. Et ça me fascine toujours de voir que des gens plus jeunes que moi ne savent pas utiliser des trucs vraiment basiques, enfin que j'estime basiques, en tout cas moi, avec mon expérience, quoi.
Et en même temps, pour eux, t'es un vieux con,
temps,
parce que
con.
T'es pas sur Discord et Twitch, t'as pas une chaîne YouTube, le nombre de gamins qui lèvent la main, qui ont une chaîne YouTube, et qui veulent d'ailleurs pas te donner leur pseudo parce qu'ils veulent pas que tu puisses y aller. Ces phénomènes sociaux qui sont superbes, ou d'ailleurs les gamins entre eux ignorent qu'ils sont sur certains réseaux sociaux, et ignorent qu'ils ont les uns les autres des chaînes YouTube ou des chaînes Twitch, et quelque part ont deux identités, c'est-à-dire ils ont... et il y a deux canaux de transmission de l'information, il y a le canal présentiel, comme on dit maintenant, donc avec des informations qui circulent à l'intérieur du collège ou à l'intérieur du lycée, et t'as cette espèce de couche numérique par-dessus, avec des informations qui circulent pas forcément à l'intérieur du collège, mais qui vont parfois sauter de collège en collège à travers YouTube ou Twitch ou d'autres réseaux sociaux. Et c'est fascinant, les gamins, sans s'en rendre compte, gèrent leur identité.
Du coup, leurs identités.
Ils gèrent leur alter ego numérique.
Ouais, 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 ouais.
Et je suis... sur le cul quand je vois à la fois leur analphabétisme numérique et en même temps, ils nagent dedans complètement. Tu vois, on parlait de la différence entre l'ordinateur et le robot ménager, quoi. Bah, pour eux, l'ordinateur, c'est un robot ménager. Et donc, ils s'en servent comme un robot ménager, c'est parfaitement naturel. Mais en même temps, ils savent pas comment ça marche. Et je sais pas quoi en penser. Je sais pas s'il faut être fasciné ou s'il faut être effrayé, quoi. C'est... Ouais. C'est passionnant, passionnant.
Ah ouais, je pense que ça l'est, ouais. On verra ce que ça donne dans 10 ans, mais oui, c'est fascinant.
Sur ces bonnes paroles, regardez.
Regardez. Eh bien, écoute, je vais commencer parce que je suis joli. J'ai vu Turning Red.
Toi aussi?
Oui, 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 j'ai succombé au dernier Pixar, plutôt Disney que Pixar, il faut le dire quand même.
On est d'accord là-dessus.
Oui, 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 c'est quand même très Disney. J'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. Et de toute façon, enfin, j'ai beaucoup de points faibles quand il s'agit des films en général. Mais il y a quelque chose qui m'émeut toujours dans les relations familiales. Et du coup, c'était à peu près acquis que j'allais aimer. Même si quand même il y a beaucoup de défauts. Je pense que c'est un des Pixar les plus creux qui existent. Mais bon, je pense que tu as plus de choses à dire que moi là-dessus, donc je vais te laisser les dire.
Ah, je me suis ennuyé à mourir devant ce Pixar.
Donc toi tu dis Pixar, ça y est, c'est acquis, c'est foutu, ça y est, c'est la boîte a coulé.
Je sais pas, ce que j'aimais bien dans les Pixar, c'était que ils sont capables de fonctionner à deux niveaux. Ils
Ça c'est vrai.
fonctionnent à la fois pour les enfants et pour les parents. Et je crois que c'est de moins en moins le cas, et que du coup, comme je suis pas un enfant, et que je suis pas non plus un parent, bah ça marche plus. En tout cas pour moi. Je sais pas si ça marche pour d'autres, je suppose que ça marche pour d'autres, puisqu'ils continuent à en faire. Mais en tout cas pour moi, ça marche plus. Et puis j'arrive pas à regarder Turning Red en me disant oh, regarde Disney, ils veulent choper les milliards de dollars du marché chinois, regarde. J'arrive pas quoi. Donc du coup ça me casse un peu le truc. Non mais enfin, je me suis fait chier quoi. C'est pas. Enfin, ça n'a ni queue ni tête, enfin, sauf la queue du panda. Mais enfin. Non, je me suis embêté, ouais.
Une des phrases que Craig Mott disait sur le dernier Matrix et qui m'avait frappé, c'était qu'on regarde un film pour les enjeux. Et que Matrix 4 était un film qui manquait cruellement d'enjeux. Et c'est un peu pareil là-dessus. C'est-à-dire que enfin, les difficultés sont résolues tellement vite
Oui.
que tu te demandes à quel moment on a pu les considérer comme des difficultés, en fait. Et du coup, c'est effectivement une histoire, mais qui est très linéaire. Il n'y a pas vraiment de.
Mais cela dit, ce que je trouve intéressant dans l'évolution des Pixar, c'est que les premiers Pixar, on va dire les 10 ou 12 premiers, les enjeux justement étaient des enjeux externes. C'était le gentil contre le méchant.
Oui.
Et là, depuis les 3 ou 4 derniers, ce sont des enjeux internes. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, c'est tout dans ta tête. Je ne sais pas si c'est Pixar qui fait de la santé mentale de comptoir, mais je crois que pour les enfants, c'est aussi assez important de leur expliquer que le monde n'est pas aussi simple que tout est noir ou tout est blanc, et qu'en fait tout est gris, et que la vraie bataille, elle se joue dans leur tête, notamment quand les enfants deviennent des ados. Et donc, à la limite, sur ce plan-là, j'ai envie de dire que les 3 ou 4 derniers Pixar marchent bien. Mais comme je suis pas un grand enfant ou un petit ado, forcément, moi, ça m'émeut moins, quoi. Je vais la refaire. Moi, ça m'émeut moins.
Phrase dure à dire, surtout quand t'es enrhumé, je pense.
Moi, ça m'émeut moins.
Ouais.
Répétez ça 3 fois très rapidement. Moi, ça m'émeut moins.
Ah non, pas possible. J'ai jamais réussi à faire ce genre de choses. Mais tu vois, moi j'ai un problème avec ça, je crois.
Ah ben
Antonin
c'est
de Los
évident.
Santos. Oui.
Surprise.
Oui.
Le conservateur de service se réveille.
Alors, comment dire? Eh ben voyons. Tu sais qu'en plus, ils ont fait des casquettes avec marqué ben voyons. On est quand même au niveau de l'argument. Enfin. Non, enfin, je vais pas être lancé là-dessus, c'est même pas la peine. Bon, je crois que au contraire, en tant que parent de qualité, de nombreux enfants, je crois au contraire que il y a du bon dans une certaine. Oh mon Dieu, ce que je vais dire va être horrible. Il faut que je trouve une manière de formuler.
Rien ne sera coupé au montage, rien.
Non! Bon, ok, je me lance et pardonnez-moi, voilà, je ferai flagellation après. Il y a une, je pense plutôt. Je pense qu'il y a du bon dans une certaine binarité dans les fables et les légendes et les contes d'enfants. Dans le sens où tu peux pas créer de gris sans créer le concept de noir et blanc à l'origine. Il faut du coup ancrer ça dans un contexte. Et ensuite, tu peux mélanger les couleurs. Donc, d'abord donner l'accès à la palette. Et ensuite, tu vas donner l'accès au pinceau, éventuellement, quoi. Du coup, j'ai pas encore trop réfléchi sur la bascule du méchant dans les nouveaux Disney slash Pixar. C'est vrai que dans Encanto aussi, enfin, la méchante, en fait, c'est la grand-mère qui a juste des motifs qui sont à elle, quoi.
Ah, oui, c'est les relations familiales, quoi. Enfin, ouais.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Et je trouve ça vraiment intéressant. Objectivement, je trouve ça intéressant. Et je pense qu'il y a des choses à dire. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas. J'espère que les vilains existent toujours, quand même. Parce que autant dans un film comme Batman, tu vois, on peut imaginer le héros torturé face à un adversaire qui finalement est pas si méchant que ça. Tout ça. Bon, voilà. Enfin, ça c'est pour les grands, tu vois. Mais qui Je crois que y a un âge pour la justice, il y a un âge pour la miséricorde, quoi. Et les adultes, ados-adultes, sont plus. Enfin, une fois qu'ils se frottent à la vie et qu'ils font cette expérience de la vie et de leur imperfection et tout ça, doivent être plus enclins à cette nuance. Mais que quand t'es enfant et que t'es encore dans cette violence de l'innocence, tu as une nécessité de construction dans cette voie, dans un sens. Pour arriver ensuite à cette nuance.
Oui, je vois ce que tu veux dire. En même temps, enfin, Onward, par exemple, était pas mal pour ça, quoi. Où il y a un côté, il y a le méchant, quelque part, c'est le souvenir du père, quoi. C'est où le l'image qu'on peut se faire d'une
Ouais.
certaine parentalité et l'image qu'on peut se faire de c'est quoi le passage à l'adolescence et ensuite à l'âge adulte. Saul, quoi, où il y a y a tellement pas d'antagoniste que t'es même pas sur Terre, quoi. Et où finalement le méchant, c'est la vie elle-même, quoi. C'est cette incapacité à t'accomplir, quoi. Et je trouve. Enfin, encore une fois, je pense pas que je sois le public et je pense pas que ça marche avec moi et je crois que c'est tant mieux quelque part. Mais c'est peut-être plus subtil que le truc manichéen, très manichéen d'avant, quoi, le truc très Disney des années 50. Et où finalement, ils ont remplacé la complexité qui était on fait un film à deux niveaux qui fonctionne pour les parents comme pour les enfants, par cette complexité qui est on parle de trucs un petit peu plus compliqués, on parle de sentiments, on parle de choses qui sont à l'intérieur de la tête, on parle d'orages hormonaux, et finalement on parle à un public qui est légèrement différent, qui est ni les petits-enfants, ni les grands-enfants que sont leurs parents, mais le groupe qui est entre les deux, c'est-à-dire les adolescents, avec tout le problème qui consiste à définir ce que c'est qu'un adolescent, quoi. Est-ce que c'est un grand-enfant, un petit adulte, enfin.
En tout cas, c'est sûr qu'il aura du pouvoir d'achat d'ici 5 ans, donc c'est une bonne idée.
Mais complètement. Et je crois pas qu'il faille oublier ça. Et y a beaucoup de propagande aussi là-dedans. Hein. Enfin, encore une fois, je crois pas que ce soit tout à fait anodin de faire ce film en choisissant une communauté chinoise au Canada. C'est pas uniquement un enjeu de représentativité. Enfin, on aurait pu prendre une autre communauté dans un autre pays. C'est pas n'importe quoi de parler de la Chine en Amérique du Nord.
Oui.
C'est on ouvre sans ouvrir. Hein.
Oui, non, surtout qu'ils ont quand même bien depuis quelques temps là avec les aussi les Marvel tout ça. Enfin, il y a une bonne petite offensive de propagande effectivement au niveau des Disney.
Donc c'est intéressant, mais oui, enfin clairement je suis plus le public. Et bon, c'est pas grave, hein. C'est pas. Enfin,
Et d'autres films qui sont bien aussi.
Oui, et puis ça les empêche pas de faire de faire leur milliard, donc bon, enfin je me fais pas de soucis pour Disney, quoi, c'est pas.
Je peux pas dire que je sois très inquiet non plus.
Moi, par ailleurs, j'ai regardé Severance sur Apple TV+.
Ah, j'ai envie de le voir, mais alors, ça me fait un peu peur cette série. C'est comment le
No
ton?
not notamment écrit par Ben Stiller, et c'est pas drôle, c'est pas une comédie. Écoute, je me suis demandé, j'étais intrigué par le côté, bon d'accord, on leur coupe leur mémoire en deux, quoi, et quand ils sont sur leur lieu de travail. Ils n'ont les mémoires que du lieu de travail, et quand ils sont chez eux, ils ont les mémoires que de chez eux. Et très très rapidement, la série d'ailleurs, alors c'est pas de la grosse philosophie, mais très rapidement, la série va à la conclusion évidente, qui est que bah, quand tu as deux jeux de mémoire, tu es finalement deux personnes. Et que la personne qui est quelque part enfermée au bureau, le jeu de mémoire qui est enfermé au bureau, est une personne différente de celle que tu es dehors, et qui finalement est en prison, parce que. Elle se réveille au moment où tu rentres au bureau et elle n'a pas la notion de jour et de nuit. En fait, elle est tout le temps réveillée, quoi. C'est juste que, il lui manque 8 heures, entre deux éveils, quoi. Et on revient sur, pour le coup, la philosophie de comptoir sur le sommeil n'est-il pas une petite mort? Et peut-être qu'en fait, tu te réincarnes chaque fois que tu te réveilles et tu ne peux pas vraiment savoir quand tu dors si tu es encore vivant et tout ça et tout ça et tout ça. Mais c'est plus subtil que ça. Il y a plein de questions qui sont pas résolues. Tu arrives à la fin de la première saison avec un petit cliffhanger comme il faut, mais qui est. On n'est pas dans la violence, on n'est pas dans. Enfin, il n'y a pas quelqu'un qui meurt. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est beaucoup. Enfin, je crois que c'est mieux. Et. Ouais, j'ai genre vraiment envie de voir la deuxième saison, quoi. Et c'est dark, super dark, sans qu'il y ait de la. Violence physique. Tu vois, le truc qui me fait chier, c'est les films d'horreur ou les slashers, quoi. J'en ai
Ouais.
ras-le-bol de voir ce genre de truc. Ou les trucs où t'as envie de te suicider au bout de la 15e minute.
Ouais.
Là, c'est pas ça. C'est super dark, mais fait de manière très subtile, très complexe. il y a beaucoup de pression psychologique, mais sans te donner envie de te mettre une balle. Et il y a beaucoup d'humour, notamment sur la question de l'oppression au travail, quoi, et les relations que tu peux avoir avec tes collègues et surtout avec le patron. La question du panoptique, qui est beaucoup abordée, hein, le côté. Enfin, je peux pas spoiler. La question du panoptique, sans spoiler. Enfin, c'est Ben Stiller. Qui l'eût cru?
Qui l'eût cru?
Ben Stiller. Bravo, monsieur.
C'est lui qui avait écrit la vie rêvée de Walter Mitty ou?
Je sais pas si c'est lui qui l'avait écrit, mais tu sais quoi, je peux voir le lien. Il y a un peu de ça. Grosse vibe.
Ok.
Et photographiquement, c'est superbe. Notamment, j'aime beaucoup les plans quand on voit l'entreprise Lomon, parce que l'entreprise s'inscrit dans un cercle et tu dis oh, Apple a acheté ça. Et tu ne peux pas ne pas penser à Apple quand tu vois cette entreprise qui domine le monde. J'adore.
D'accord, ça donne presque envie de le voir, ouais, j'avoue. Ok.
Ah, je crois qu'il faut. Enfin, okay. Comme tout le monde a un abonnement Apple TV Plus gratuit, je crois qu'il faut.
Et je crois qu'il il est terminé pour moi. Vous savez, je paye Apple TV Plus.
Tu dois être la seule personne au monde qui paye, c'est donc toi. Ouais, non, je crois qu'il faut en profiter. C'est pas mal. Et puis ça passe vite. C'est 8 épisodes de 45 ou 50 minutes, ça se mange vite.
Ok. Bah, de mon côté, en série, je suis allé sur Netflix pour regarder la saison 2 de The Witcher. J'avais un peu de retard aussi là-dessus. Et après ça, on a commencé The Wheel of Time, ou la roue du temps, sur Amazon Prime. Et ça m'a fait réfléchir à une chose qui est que dans The Witcher, je n'arrive pas à entrer dedans. C'est pas déplaisant. En fait, j'aime bien regarder parce que c'est quelque chose qui est dépourvu d'enjeu pour moi aussi. Je sais que le mec mourra pas. Je sais que, tu vois, enfin, il y a plusieurs acquis, tu vois. Et il y a d'autres choses qui font que ça peut facilement être assez drôle. Parce que les lentilles de contact du pauvre Henri Cavill, par exemple, le font ressembler à cet oiseau improbable qui a, tu sais, des yeux qui partent dans deux directions différentes. Et dont une pupille est plus petite que l'autre. Et enfin, donc c'est vraiment. Enfin, toutes les scènes un peu sérieuses deviennent ridicules. Mais bon, il y a aussi un autre problème qui est que c'est fait pour les fans. Si t'as pas joué au jeu, si t'as pas lu les bouquins, si t'as pas joué au jeu, bah t'es perdu.
Oui, mais je sais que ça existe.
Ouais, tu vois, c'est ça.
J'en ai vu 5 minutes et il y a un côté. Oui, d'accord, ok, c'est pas pour moi.
C'est du fanservice. Ouais. C'est que du fanservice. Et je pense que c'est très bien que ça existe, ouais. Mais du coup, la roue du temps, par exemple, c'est le posé inverse, enfin c'est le contre-pied, quoi. Je sais que j'ai pas lu les bouquins, je les lirai sans doute jamais, mais par contre, bah, tu comprends assez vite les enjeux, tu comprends assez vite la situation dans le monde, tout ça. Bon, il y a beaucoup de choses inconnues parce que j'en suis qu'au deuxième épisode, donc c'est normal en même temps. Mais voilà.
J'en ai donc vu plus que toi.
Ah, t'en ai vu toi.
J'ai regardé par-dessus l'épaule de Cécile. C'est joli, c'est très coloré.
Très coloré, oui.
Je comprends à peu près ce qui se passe. Bon, enfin, pareil, c'est pas pour moi.
Oui. Non, mais voilà, je pense qu'en termes d'enjeu, je pense, même s'il y a des. On voit bien les factions qui s'opposent, tout ça. Bon, l'exposition est assez bonne, je pense. Mais on voit bien aussi que certaines personnes ne mourront pas tout de suite, ça c'est sûr. Ne serait-ce que parce que ce sont sur les vignettes de tout chaque épisode. Mais, ouais, en tout cas, ça crée plus de tension et t'es plus dedans. L'immersion est meilleure, je pense. Donc, ça m'avait interrogé sur. La manière dont tu introduis un univers et pour qui tu fais quelque chose. Et le sacrifice que tu fais quand tu décides de le faire uniquement pour les gens qui ont lu ou joué enfin eu un contact avec l'œuvre au préalable. Et l'approche très différente, presque altruiste, qu'il y a à faire ça pour tout le monde. C'est ouais. Intéressant.
Écoutez, du coup ?
Oui, j'ai écouté deux, trois choses, mais pas grand-chose qui m'a retenu l'oreille. À part un truc vraiment de pop. Alors, j'ai écouté essentiellement deux choses. Trois choses. Deux choses et demie. Je parlais du 0,5. C'est dans la playlist du designer que tu avais partagé il y a deux ou trois épisodes, qui est vraiment pas mal. Et c'est une très bonne manière de découvrir de la nouvelle musique de qualité. Ça, j'aime bien. Et ça me manque. Je me rends compte que j'ai pas beaucoup de portes d'accès des nouvelles musiques. Donc, ça, c'est bien. Et c'est le. Alors, laisse-moi retrouver le nom. J'ai écouté du coup un morceau et ensuite l'album de Monsieur Tom Rogerson, qui s'appelle Retreat to Bliss. Donc le morceau qui est dans la playlist s'appelle Oath et je le trouve très joli. L'album est moins bien, mais j'aime bien quand même. Et j'ai menti, j'ai écouté trois choses en tout parce qu'il y a deux 0,5 choses. La deuxième 0,5 chose, c'est l'album de Monsieur, comment il s'appelle, Monsieur Brad Meldow,
oui,
que j'ai vu sur, dont j'ai vu la critique sur le site de Nicolas, qu'on salue. Et c'est donc un juste retour de choses puisque lui avait publié Beyrouth, je crois, et moi, à cause de lui, j'écoute Jacob Zlader. Et j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup.
Brad Meldow qui est probablement mon pianiste favori, dont j'ai tout écouté, qui est l'artiste que j'ai le plus vu en concert.
Ah ouais?
Et à chaque fois qu'il passe à Lyon, je vois Brad Meldow. J'ai dû faire peut-être une dizaine de concerts en tout au fil des années de Brad.
Wow.
Et qui, forcément, tout est bien. Et j'ai pas encore écouté Jacob's Ladder, mais forcément, ce sera bien.
Bah, je découvre avec ça. En fait. J'ai découvert ça et du coup, le morceau aussi précédent, la reprise de Paranoid Android de Radiohead. Et c'est...
Ah, c'est une manière étrange de rentrer dans son œuvre parce que là c'est du rock prog un peu, c'est quand même, enfin c'est un hommage au rock prog, c'est quand même pas le truc le plus évident dans son catalogue. Ouais.
J'aime bien le son du piano est fantastique.
Oui, toujours très bien. Ouais.
J'étais choqué par ça. En fait, j'ai toujours peur quand j'écoute du jazz parce que moi qui y connais rien, je me dis putain si j'aime bien ce morceau là. Et si Anthony dit que c'est de la merde, je vais avoir mis de la merde encore une fois. Et je vais être un gros con parce que je vais avoir dépensé 45 minutes de ma vie, tu vois. Pour ça, j'aurais pas dû m'attacher émotionnellement. Et du coup, ça me rassure que t'aimes bien.
Non, tu peux pas te tromper avec Meldow. C'est à la fois très facile de rentrer dedans parce que notamment, il fait beaucoup de reprises. Pendant un temps, il reprenait beaucoup de morceaux des Beatles.
Ah, okay.
Là, il s'amuse avec les références du rock prog. Et en même temps, il peut faire des trucs super compliqués, notamment du jazz fusion, des collaborations avec des artistes un peu compliqués. Donc t'as, dans son œuvre, t'as à la fois du jazz très accessible et des choses beaucoup moins accessibles. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une bonne porte d'entrée dans le jazz. C'est-à-dire que tu peux commencer par des trucs qui sont assez accessibles, qui sont assez drôles, quoi, et puis bah, tu vois le reste. Si t'aimes pas, c'est pas grave, ça t'empêche pas d'écouter le reste de son œuvre. Mais s'il y a un truc qui retient ton attention, bah, tu peux très vite tomber dans du jazz super compliqué et aller voir plein d'artistes et y passer ta vie, quoi. C'est aussi pour ça que j'aime bien Meldow, ouais.
J'aime bien les artistes qui sont un peu des portes d'entrée comme ça aussi, ouais. C'est pas mal. Et du coup, les deux autres albums que j'ai écoutés de José González, avec l'accent, j'ai écouté Local Valley, que j'ai moyennement aimé. Je crois que j'aime bien, mais à petite dose, c'est trop, trop hippie pour moi. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la déférence envers la nature, j'aime beaucoup certains textes très simples et du coup très directs et profonds. Mais je crois que à force de simplicité, ça m'ennuie un petit peu. C'est peut-être mon problème et pas le sien, donc écoutez-le quand même. Et enfin, un album un peu plus ancien qui date de 2019. De Keane, ceux qui avaient fait à l'époque Somewhere Only We Know, je sais pas si tu te souviens.
Ouais.
Et donc j'avais oublié qu'ils avaient des albums encore après. Et ça m'a interrogé du coup sur le futur de ces groupes qui font un titre qui devient un hit et ensuite qu'on définit avec au prisme de ce titre-là, forcément.
Mm-hmm.
Et je trouve que c'est un bon album. Je trouve qu'il y a des très bons. Enfin, ça s'éloigne vraiment de ce qu'ils ont fait auparavant sur le précédent, du coup. Et. C'est recherché, c'est de la bonne pop, je trouve, vraiment. Mais faudrait que je voie par curiosité le nombre le classement dans les lectures, mais voilà, je suis un peu curieux. Mais j'aime bien, c'est très mélodique, c'est une musique qui vit, c'est un peu ciselé, ça commence sur des morceaux un peu plus adagio, puis le morceau évolue en cours de route, enfin c'est vraiment chouette, j'aime bien, ouais.
Alors moi, comme sur ces 15 derniers jours, j'étais 10 jours sur la route, enfin sur le rail plutôt d'ailleurs, j'ai pas écouté grand-chose. Alors j'ai quand même écouté Bend on the Run pour la 1000e fois en faisant le tour du lac du Bourget, parce que c'est le meilleur album de l'histoire sur le meilleur morceau de rail de tout le réseau SNCF. C'est notamment le virage avant d'arriver à Aix-les-Bains, c'est le virage le plus serré sur une ligne à double voie dans toute la France, et donc le train est... très très incliné, tu as la vue sur le rail en étant sur le et tu as vu sur le lac en étant au ras de l'eau, c'est superbe. Et donc en plus, tu as de la bonne musique dans les oreilles, c'est quand même sympa.
Ouais.
Un jour, je ferai ça avec du Pink Floyd dans les oreilles, je pense. Ça doit pouvoir être trippant.
Il y a moyen.
Mais j'en ai profité pour faire un peu de tri dans mes podcasts et j'ai redécouvert Décodeur, qui est un des podcasts de The Verge. Et en fait, j'écoute plus du tout le podcast de The Verge depuis très longtemps. D'ailleurs, j'écoute plus aucun podcast tech depuis 2 ou 3 ans maintenant. À part Dithering, qui est le podcast d'un quart d'heure là de John Gruber, John Gruber qui fait plutôt des podcasts de 3 ou 4 heures, c'est agréable de l'écouter juste un quart d'heure comme ça 2 fois par semaine.
C'est bon format ça, un quart d'heure, je trouve.
C'est un bon format, ouais. Mais il me restait quelques épisodes de Décodeur dans un coin de Pocket Cast, donc je me suis dit, bon, je vais écouter ce que ça donne. Et en fait, c'est à nouveau super bien. Il y avait un épisode avec Eben Upton, qui est le patron de Raspberry Pi, qui était passionnant sur ce qu'ils font et où ils veulent aller avec Raspberry Pi. Un épisode avec Matt Mullenweg, qui est le créateur de WordPress et le patron d'Automattic, qui est peut-être l'une des discussions sur la technologie la plus intéressante que j'ai entendue depuis longtemps. Et quand on me connaît et qu'on sait à quel point je suis blasé, on sait que c'est pas un petit compliment. Et je viens d'écouter l'épisode avec Patrick Spence, et c'est super révélateur de la conduite de Sonos, et ça me fait penser qu'effectivement, je n'achèterai plus jamais un produit de Sonos. Et c'est que des interviews, les questions sont... Il y a souvent la même question qui revient, notamment des questions autour de la prise de décision, comment les patrons de la tech prennent des décisions. Ce qui est assez intéressant parce que la réponse est en général assez révélatrice de l'identité de l'entreprise. On parlait dans ce présent podcast de l'identité parfois entre la personnalité des individus et la personnalité de l'entreprise. Et ouais, ce podcast a été une redécouverte. Et si vous comprenez l'anglais et que vous êtes intéressé, pas seulement dans les technologies, enfin dans les gadgets, quoi, mais vraiment dans la conduite des technologies. C'est super, franchement. C'est vraiment très bien.
Automatique, c'est une drôle de boîte, hein.
Oui, qui est complètement distribuée, donc il n'y a pas de bureau central, qui est installé dans je sais plus combien de pays, et qui préside aux destinées de 40 ou 45% du web, et qui veut que WordPress, à la fin, représente 80 ou 90% du web. Et quand t'entends Mullenweg te dire qu'il veut être un monopole, mais un monopole pour le bien, tu fais d'accord, tu veux être un monopole pour le bien, mais enfin. Quand t'es un
Famous
monopole,
last words.
ouais, c'est ça. C'est ça. Enfin, moi, ça me fait peur. Hein. Et d'ailleurs, ça m'embête hein, d'utiliser Pocket Cast, parce que Pocket Cast appartient à Automattic. Et tu te dis donc, bah, tu utilises WordPress, Pocket Cast, Day One, Simple Notes, enfin, Tumblr, ça commence à faire beaucoup de choses sous la même boîte. Et à une échelle, enfin, encore une fois, hein, quasiment un site web sur deux maintenant, enfin, un site web public sur deux, c'est du WordPress. Ça commence à ressembler à de la concentration et ça commence à ressembler à un problème pour la santé du web, même si Matt Wallenweg est par ailleurs quelqu'un de fort sympathique et que je suis persuadé qu'il fera un monopole bénévolant. Mais enfin, les gens, ça meurt. Les entreprises, ça survit. Est-ce que tu as lu quelque chose, Arnaud?
Alors, merci de poser cette question, Anthony. Je n'ai pas fini de livre. J'en ai commencé. Ça, je sais faire.
Qui n'en commence pas?
Qui n'en commence pas, voilà. Adrien, de son côté, est déjà sur le dernier tome de 1Q84. J'ai envie de le frapper.
Oh,
Non,
super.
mais. Non mais je sais pas comment il fait pour lire autant. Et heureusement il écoute pas ce podcast, donc il sait pas que je suis jaloux de lui, mais quand même quoi. Je suis hyper jaloux. Non mais franchement, merde. Bon, il arrive à se mettre. Il a une plasticité dans le cerveau que je n'ai pas. Je pense qu'il se pose moins de questions et ça doit être vraiment pas mal des fois. Mais du coup, non, j'ai pas. Enfin, j'ai lu des articles, mais rien de transcendant, je dois l'avouer. Ouais.
Alors moi, dans mes grandes pérégrinations, je suis passé à Aix-les-Bains, j'ai découvert une toute petite librairie qui s'appelle la librairie des Danaïdes, qui était une espèce de goutte de progressisme dans cet océan de conservatisme qu'est Aix-les-Bains. C'était agréable d'avoir enfin quelqu'un qui avait un avis sur Éric Zemmour qui ne soit pas un avis qui consistait à dire « ça va être bien quand il sera le nouveau président et qui va mettre dehors 12 millions de Français ». Enfin, qui du coup... C'était plutôt 12 millions.
On s'entend.
Ben voilà quoi. Pour une fois, j'ai été bon public. J'ai picoré dans la librairie les livres sur lesquels il y avait des post-it qui avaient été laissés par les libraires. J'ai donc chopé Requiem, qui a été écrit par un auteur dont je vais massacrer le nom, Gyrðir Elíasson, quelque chose comme ça, qui est un Islandais, qui a écrit une trilogie sur la solitude, et donc c'est le troisième de la trilogie. Et donc en fait,
Oh.
tu t'es avec une seule personne qui entend des choses dans sa tête et qui compose, mais qui compose sans savoir forcément noter des notes de musique. Enfin, qui a pas de notion de solfège, quoi, donc c'est assez intéressant. Et tout petit bouquin qui est superbe, et la traduction est incroyablement délicate. Ça fait quoi, 184 pages, un truc comme ça.
Ah, c'est rien.
Magnifique.
Ok.
Magnifique. Un bouquin comme... Ça m'embête de le dire parce que ça fait un peu essentialisant, mais enfin, un bouquin très islandais, quoi. Et du coup, je n'ai pas encore fini Les Mémoires d'Adrien.
Ça va venir. Mais c'est un livre qui se... C'est un livre dense, vraiment. Je pense pas qu'on puisse le finir très vite et je pense pas qu'il faille le finir très vite. Ce serait dommage.
Non, non, ça savoure, ça se boit à petite dose. Ce qui m'empêche pas de lire d'autres choses pendant ce temps-là. Hein. J'ai évidemment deux ou trois autres livres en cours, parce que sinon ce serait pas drôle. Je crois que j'ai un livre en cours dans chaque pièce de l'appartement.
Est-ce que ce sont des livres du même type, de même genre littéraire?
Non, absolument jamais.
Ouais, c'est ça. Ok.
C'est au moins toujours de la non-fiction et une fiction, et si je lis deux fictions en même temps, c'est deux fictions sur deux, enfin de deux manières complètement différentes, quoi. Genre
D'accord.
par exemple un auteur français, un auteur étranger, ce qui est le cas en ce moment. Enfin, ou dans deux langues différentes, par exemple, un ouvrage en français, un ouvrage en anglais. Mais ouais, je crois que j'ai un bouquin ouvert dans chaque pièce de la maison, y compris les toilettes. C'est une maladie.
Très officiellement, on peut le dire maintenant.
Acheter alors.
Acheter, ah oui. Oui, il faut dépenser cet argent durement gagné.
Le podcast est sponsorisé par.
Par, si seulement. Ce que j'ai acheté récemment, c'est un backpack de 12 South. Et j'ai découvert beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tard, c'est-à-dire il y a 3-4 jours, que 12 South, leur logo, c'est un 12 incliné vers le sud.
Non, t'as pas découvert, t'as redécouvert parce que toi et moi, ça fait 10 ans qu'on le dit au moins tous les 6 mois.
C'est vrai?
Ouais.
Ah merde! Mais comment ça se fait qu'il y a des choses comme ça qui se resettent dans la mémoire? C'est terrible!
Mais tu veux pas, tu veux pas. Ou au contraire, t'es un éternel enfant et tu veux avoir ce plaisir de cette redécouverte parce que c'est une super astuce graphique par ailleurs, mais.
C'est brillant. En fait, je me suis rendu compte en mettant l'autocollant sur mon ordinateur parce que celui du boulot, je mets des autocollants dessus. Et je te jure, franchement. Je l'ai mis de travers et je me suis rendu compte, mais Arnaud, ça fait 12? Donc voilà, j'ai hâte de réoublier cette information importante pour m'en émerveiller dans 6 mois à nouveau.
12 South, qui avait un énorme inconvénient qui était que c'est une entreprise nord-américaine qui n'avait pas de stock en Europe et depuis quelques semaines maintenant, ils ont une boutique européenne et donc on évite les frais de douane.
Oui.
Et c'est quand même vachement mieux.
Ah ouais, franchement. Là, j'ai en fait, bizarrement, c'était disponible sur Amazon, mais c'est juste avant qu'ils ouvrent, que j'apprenne qu'ils ouvraient en Europe. Bon, bah, j'ai pris sur Amazon du coup. Mais du coup, le backpack, qu'est-ce que c'est? C'est une petite étagère qui se fixe de manière assez ingénieuse au dos de l'iMac. Et ça me le fait avancer d'un tout petit peu, enfin, d'un centimètre, je pense, maximum, donc c'est tolérable. Et surtout, tout mon bordel tient derrière. Donc, alors, par contre, c'est un truc sans nom, hein, j'ai mis un amas de câbles et de disques durs et de hubs, donc c'est une catastrophe. Mais
Quand tu
tout
dis tout
est.
ton bordel, tu peux expliquer justement ce que tu as mis dessus?
Alors, un hub avec 4 ports, enfin un hub de Thunderbolt vers 4 ports USB-C, USB-A, pardon.
Ouais.
Un disque dur crucial, le MX500, je crois. C'est le noir carré.
Le X6 donc.
X6, donc aucun rapport. Et l'autre, le noir oblong.
Le X8.
Voilà.
Et je me déteste de savoir ça.
Et aussi le câble de mon micro est très long, donc tout le câble, tu sais, supplémentaire qui ne sert à rien est strappé derrière aussi avec tout le bordel. Donc j'ai mis un quart d'heure pour tout mettre ça en place, je n'y toucherai plus jamais de ma vie. Et et voilà. Mais c'est très pratique, du coup mon bureau est tout propre, j'aime bien.
J'hésite.
Je pense que c'est un bon achat. Mais ça dépend comment c'est organisé chez toi, quoi.
Oui, enfin, ça dépend surtout de mon compte en banque. Mon compte en banque est vide parce que j'ai acheté un système d'étagère Vitsu 606. J'ai craqué.
Ah!
C'est le plus gros achat individuel que j'ai jamais fait de ma vie. Et c'est bien. Donc, c'est le système. Ce système a été conçu par Dieter Rams en 1960.
Qu'on salue.
qui nous écoute pas, mais on le salue quand même, qui a été qui depuis 1960 est en production par Vitsue, qui est une boîte allemande qui a enfin qui a été reprise il y a quelques décennies maintenant, qui est installée en Angleterre, qui pendant très longtemps a été d'ailleurs licenciée par d'autres entreprises, notamment une entreprise italienne, mais Vitsue a repris l'exclusivité de la chose depuis quelques années. Et donc c'est un système entièrement modulaire, donc c'est des rails qu'on visse au mur, et donc sur lesquels on vient ensuite fixer des tablettes ou des tablettes, enfin des bibliothèques quoi, des bibliothèques plates, bibliothèques inclinées, des systèmes de caissons, caissons un tiroir, deux tiroirs, trois tiroirs, caissons avec des portes qui s'ouvrent en haut, qui s'ouvrent en bas, des bureaux, des tables même, des tables à manger. Donc évidemment ce système peut être configuré comme on veut, et puis bah, quand on déménage, on le démonte et on part avec. L'idée c'est de le garder toute sa vie. Ce qui explique aussi qu'il soit cher. Et un truc sur le prix qui est intéressant, donc d'abord c'est fabriqué en Grande-Bretagne entièrement, et surtout il considère que c'est le prix juste. Il parle de honest pricing, donc de prix honnête. Et en fait ce qui est super bien, c'est que contrairement à d'autres systèmes de bibliothèque modulaire ou de bibliothèque sur mesure, tous les prix sont publics. Il n'y a pas de surprise. Il y a un grand PDF avec tout jusqu'au petit adaptateur que tu peux mettre pour faire passer des câbles ou des trucs comme ça. Tous les prix sont publics. Ouais. Et donc tu peux sortir ta calculatrice. Enfin, moi j'avais sorti Numbers, quoi. J'avais fait tout mon système. Et à l'euro près, c'est exactement ce qu'on m'a dit. Et le process d'achat est, je trouve, superbe. En fait, on ne peut pas acheter en ligne. Il n'y a pas de boutique en ligne où on compose son système soi-même. En fait, on envoie un mail à un planeur. Ils ont des planeurs pour plein de pays, et donc pour la France, c'est une planeuse, Marie. Et donc on lui envoie un mail, et on lui dit, voilà, ça c'est les photos de là où je compte installer mon premier système Vitsue, parce qu'évidemment, ce sera le premier, et ce ne sera pas le dernier. Voilà toutes les dimensions, voilà ce que j'aimerais en faire. Et en fait, elle bosse dans son coin. Vitsue, ils ont développé une application Mac, ils bossent que sur Mac, pour configurer les systèmes modulaires, et donc elle m'a proposé plusieurs versions par rapport à ce que je lui demandais. On a discuté comme ça pendant 3-4 mails sur comment ça s'installe, est-ce qu'on peut déplacer, est-ce qu'on peut mettre ceci à cet endroit-là, est-ce que si je mets ces livres-là sur telle profondeur de tablette, ça pose pas de question de poids, comment je fais passer les prises, machin, truc, muche. Donc on discute exactement comme si on avait la personne sous la main dans une boutique, hein. Et ce qui est bien, c'est que On discute, et à chaque fois, on sait à l'euro près combien ça va coûter. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une modification, on a un nouveau PDF avec un nouveau prix.
Franchement.
À un moment, on s'arrête de discuter, on dit c'est bon, le système me convient, elle génère la facture, on paye, ça coûte un prix de fou. Enfin, ça coûte le prix que doit coûter un système modulaire d'étagère en métal que je garderai toute ma vie. Au final, c'est trois fois plus cher que ce qu'on pourrait faire avec de l'IKEA équivalent en bois massif, sauf que là c'est du métal, et que contrairement au système IKEA équivalent en bois, je pourrais repartir avec sans craindre que ça me casse dans les doigts. Donc à la fin, je crois pas que le prix soit complètement cinglé. C'est juste que ça fait un choc quand t'es pas habitué à payer ce genre de tarif. Et là, voilà, ça va arriver dans les prochains jours, j'ai le suivi, et je vais installer ça tranquillement. Et Vitsue garde en mémoire mon équipement et comment il est installé. Je peux maintenant, que j'ai une première commande, acheter de nouvelles étagères ou des presse-livres en ligne. Si je veux faire un deuxième système, je pourrais à nouveau contacter ma planeuse pour acheter des rails et composer un nouveau système. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que si tu déménages, tu leur passes un coup de fil, ils t'envoient des cartons.
Ah!
Pour mettre le système dedans. Et accessoirement, comme ils savent exactement ce que tu as acheté au fil des années, tu leur envoies les dimensions de ton nouveau logement, ils reconfigurent tout pour toi. Et ça m'inspire un sujet qui est: mais pourquoi est-ce qu'il est si difficile d'acheter des choses qui marchent bien? Pourquoi tout n'est pas comme ça? Ça m'agace.
Hey, tu vois, c'est marrant parce que je me posais la question au moment... Il m'arrive souvent de me poser cette question d'ailleurs, je crois, sur combien je suis prêt à mettre dans la chose et quel compromis je suis prêt à accepter quand j'achète la chose. Et par exemple, même le PQ, tu vois. Je pense, je dis même le PQ, c'est très péjoratif, alors que c'est super important le PQ.
Tu dis ça alors que j'ai changé de marque de PQ et de modèle de PQ après avoir utilisé ton PQ.
Mais je suis très heureux de payer mon PQ plus quasiment 5 euros des 6 rouleaux parce que c'est un plaisir d'user de ce PQ. Et je crois que le PQ, j'utilise au moins une fois par jour. Donc,
Ah,
c'est
mais oui.
important. Ouais, je suis
Mais
d'accord avec
oui.
toi. Et je crois qu'on s'impose. C'est un peu curieux. Ça a toujours été le cas. Je pense que qu'on accepte ce compromis ou non, que des choses sont moins chères, de moins bonne qualité potentiellement, et des choses sont plus chères, de meilleure qualité, et que voilà. Mais avec enfin plus, j'allais dire le Made in China en général, mais l'AliExpress, on va dire, toujours sur autre chose. Et puis même, ça va plus loin que ça. Enfin, l'AliExpress est la pointe de l'iceberg, quoi, parce qu'il y a toutes les questions de dropshipping, il y a toutes les questions de même des choses qui sont trop chères pour ce que c'est. Enfin, il y a plein de phénomènes croisés. Mais en fait, absolument tout ce qui nous entoure peut être potentiellement de très bonne qualité. Et on est juste pas potentiellement pas assez riche pour ou qu'on a pas assez de temps pour faire assez de recherches pour ce genre de choses ou pour s'assurer qu'on a la meilleure version de cette chose. Et du coup, parfois, souvent, on se satisfait d'un compromis, parfois à notre insu, et on se rend compte de l'existence du mieux en l'ayant touché une fois et en se rendant compte que du coup, les 10 dernières années n'avaient pas été un mensonge, quoi, que derrière, il y avait une possibilité de vivre tellement mieux. Et qu'on se l'était refusé à soi-même.
Je crois que je suis pas d'accord avec le parce qu'on n'est pas assez riche. Je crois pas que ce soit un problème d'argent. Je crois que c'est un double problème et qu'en fait, à la fin, c'est un double problème de temps. Le problème, c'est un... le premier, c'est un problème de temps qui est le temps de l'épargne, qui est que malheureusement, tout le monde n'est pas capable de prendre le temps de l'épargne. Il y a des gens, ils vivent salaire à salaire, enfin fiche de paie à fiche de paie, et ils n'ont pas le temps de mettre de l'argent de côté pour acheter mieux. Et donc, ils achètent ce qu'ils peuvent acheter. Et si t'as pas le choix, oui, t'achètes des étagères IKEA Billy. Et tu les rachètes. Et tu les rachètes. Et à la fin, tu les as payées 3 fois. Alors que t'aurais pu acheter du premier coup des étagères de meilleure qualité, qui auraient au final été moins chères d'ailleurs que tes 3 Billy. Donc c'est, tu vois, c'est pas un problème, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de collecte de l'argent, c'est un problème de temps. Un problème de capacité à mettre de l'argent de côté.
Je suis
Et je
d'accord.
crois que le deuxième problème de temps, c'est le problème du temps du marketing, sans vouloir attaquer ton engeance. Qui est que les marketeurs accélèrent le temps. Et quand on parle d'obsolescence programmée, ce mot qui m'agace, il n'y a pas d'obsolescence programmée. Enfin, j'ai beau avoir bossé énormément sur le sujet, il y a très très peu d'exemples d'obsolescence véritablement programmée. Par contre, il y a une obsolescence déclenchée. Elle est déclenchée par les effets de mode. Et les effets de mode, c'est les gens comme toi qui les créent.
J'en suis aussi victime, j'achète un nouvel iPhone tous les ans, donc
Mais tu
ça
sais quoi? Tant mieux. Et j'espère que t'en es encore plus victime que nous et que c'est ta manière d'expier tes fautes.
va.
Mais tu vois, là, enfin, mon système de bibliothèque, il a été conçu en 1960. Il n'y a rien de moins à la mode.
On pourrait être en désaccord parce que c'est quand même pas mal revenu à la mode les 60s.
Oui, et puis tu... Non, non, et puis oui, enfin, tu pourrais dire en plus Dieter Rams, Apple, Johnny Ive, machin, truc muche, non mais le mec, quoi. Mais c'était ça ou un autre système modulaire. Et un autre système modulaire qui était de 54 ou 55. Donc pareil, on était sur des trucs ultra vieux, quoi. Et là, la considération qui rentre en compte, c'est pas que ce soit la mode ou pas. La considération qui rentre en compte, c'est plutôt combien de temps je vais le garder. Et moi, j'insiste beaucoup sur cette idée du choix définitif, de j'achète une fois et j'achète pour la vie. Je me suis rendu compte en vidant ma valise qu'un des t-shirts que j'ai mis à laver tout à l'heure, c'est un t-shirt que j'ai depuis 15 ans. 15 ans le même t-shirt. Je le mets au moins une fois tous les 10 jours. 15 ans.
C'est de la slow fashion.
Il m'a fallu 3 ans et demi pour choisir un canapé. J'ai cru que ma femme allait me quitter.
Ah, nous on a décidé en une semaine environ.
J'aimerais être capable, mais je peux pas. Et une des raisons pour laquelle j'utilise l'écosystème d'Apple, c'est parce que choix définitif, quoi. Mon Mac, il casse, je sais exactement lequel racheter. Ce sera le nouveau modèle, il n'y aura pas forcément la même couleur, mais enfin, ce sera dans la même gamme, quoi. Et ce sera le deuxième modèle, parce qu'il faut toujours prendre le deuxième modèle chez Apple, jamais le premier. C'est une règle immuable. Mon jean casse, j'achète le même. Et vous savez quoi? J'achète les jeans par deux paires que je fais rouler. Et la paire de jeans dans laquelle je suis là maintenant tout de suite, elle a 3 ans. Pareil, hein, slow fashion le mec. Hein. Et j'ai des trucs que j'utilise tous les jours depuis ouais, 15 ans, 20 ans. Il y a des trucs que j'ai depuis que je suis adolescent, quoi. mon couteau, quoi, mon couteau suisse. Ça fait des années que je l'ai, quoi. J'ai pas envie d'en changer, quoi. Et je crois que cette notion de choix définitif, elle est importante, pas seulement quand tu penses à l'écologie et à une certaine idée de la décroissance et à comment tu peux consommer moins en consommant mieux, mais je pense qu'elle est aussi importante d'un point de vue social, économique et psychologique surtout. Le confort de ne pas choisir. Mes chaussures cassent, c'est des chaussures qui valent un fric fou avec un cousu Goodyear, je vais chez mon cordonnier, il peut changer la semelle. Je ne vais jamais jeter ma paire de chaussures. Si vous saviez comment c'est confortable comme idée. Jamais je vais devoir remettre les pieds dans un magasin de chaussures. Jamais.
Ça, c'est assez chouette, j'avoue. C'est un peu la pire chose du monde, les magasins de chaussures, je crois.
J'achète la même paire de lunettes depuis 6 ou 7 ans. Mon opticien, d'ailleurs, la dernière fois, il m'a fait remarquer. Je sentais bien qu'il était un peu triste. Puis je lui ai dit, oui, mais j'ai pas envie. Pas envie de choisir, tu m'embêtes. Le seul problème, c'est que encore faut-il réussir à faire ce choix. Encore faut-il réussir à trouver un objet qui est bien. Enfin, un objet ou un produit ou un logiciel, un matériel, peu importe. Mais... Et je trouve que c'est de plus en plus difficile. Tu parlais tout à l'heure de compromis. Je pense que les compromis à la manufacture... sont de plus en plus évidents et que c'est de plus en plus difficile de trouver des produits, notamment logiciels, de qualité, quoi.
Du coup, en tant que bon marketeur, ça me rappelle un diagramme de Venn avec trois items dessus, donc bonne qualité, pas cher, rapide. Et on peut en choisir que deux. Je pense que toute l'astuce du marketing consiste à faire croire qu'on peut choisir les trois et qu'on n'a pas besoin de choisir, en fait. Alors qu'évidemment, c'est faux. Soit c'est rapide et bon, mais dans ce cas-là, c'est super cher. Soit c'est pas cher et rapide, dans ce cas-là, c'est... Enfin, sauf AliExpress qui est lent et pas cher, mais c'est de mauvaise qualité. Soit c'est de bonne qualité et pas cher, dans ce cas-là, c'est super lent, quoi. Lent dans le sens où même il faut des recherches, il faut prendre le temps, quoi. C'est un temps vraiment nécessaire.
Et si t'essaies d'avoir les trois ensemble, oui, ça marche pas, quoi.
Ouais.
Enfin, en tout cas, c'est difficile de construire un business. Enfin, non, c'est pas vrai. C'est difficile de construire un business qui va attirer des investisseurs prêts à mettre des milliards et te faire rentrer en bourse pour faire encore plus de milliards si tu veux faire les trois ensemble. Par contre, si t'es un petit artisan dans ton coin ou une petite entreprise qui a quelques centaines de salariés, et qui n'a pas envie de jouer le jeu de l'hypercroissance et d'être complètement déconnecté des réalités terrestres, je crois que ça doit être possible. Et vous ne le voyez pas, mais il fait la moue devant son micro.
Ah, je sais pas.
Cet affreux conservateur qui travaille dans le marketing et qui vend votre âme au plus offrant.
Oui, oui.
Arnaud@arnaudjourdain.com ou quelque chose comme ça.
Bon, je t'emmerde, petit 1. Mais petit 2. Non, je suis à la fois d'accord et pas très d'accord.
Ah,
ouais, c'est curieux, hein. Mais je crois que t'as absolument raison quand tu dis que c'est une question de temps, que tout se rapporte à l'échelle du temps, quoi. En général, tout comme on fait des lettres trop longues si on n'a pas le temps de les faire trop plus courtes, en général, on fait ses choix parce qu'on est pressé par le temps ou du moins on ressent une pression du temps qui est sans doute fantasmé en général, je pense, dans la plupart des cas. Après, il y a des cas objectifs où c'est vrai, mais ce sens de l'urgence, effectivement, est insufflé par le marketing et est artificiel, quoi. Globalement, il n'y a pas d'urgence à... Je me rends compte que, là, par exemple, dans mon cas, je suis sur mon budget depuis un mois, comme je l'expliquais à le dernier épisode, avec unitedbudget.com. Très bon site, allez-y. Ils ne nous sponsorisent pas, mais ça ne saurait tarder. Et je me rends compte du coup, très concrètement, de comment je dépense mon argent et de combien il me reste dans telle enveloppe budgétaire. Et du coup, je me force à systématiser le fait de me mettre une distance entre ce que je veux acheter et mettre plus de temps entre ce que je veux acheter et le fait de l'acheter.
Oui.
Auparavant, enfin, c'était en un clic sur Amazon Prime, hop, c'était réglé, quoi. Là, je suis obligé de prendre le temps de me dire est-ce que je dois vraiment l'acheter maintenant ou est-ce que je peux survivre avec la situation actuelle où je survis très bien en fait? Et enfin, dans 90% des cas, effectivement, je peux survivre sans. Il y a objectivement une bonne centaine d'euros, enfin plusieurs centaines d'euros que j'ai dont j'ai repoussé la dépense pour cette raison-là que en fait je peux attendre et que même enfin que c'est pas un problème d'attendre quoi. Je peux même c'est même pas un compromis parce que ce que j'ai fonctionne plutôt pas bien, plutôt bien. C'est juste une question de confort imaginaire presque.
C'est ça, et je crois pas que ce soit se priver.
C'est ça, tout à fait. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, c'est pas tant se priver que de redécouvrir, de renégocier avec soi-même le fait d'être d'accord avec ce qu'on a. Et dans beaucoup de cas, enfin surtout pour des gens qui sont assez nantis comme moi, tu vois, j'ai quand même beaucoup, je me considère comme nantis, tu vois, j'ai
Tu es à l'aise financièrement.
je possède des thunes. On le salue lui aussi. Ouais, c'est ça, c'est que la plupart des enfin, ma vie fonctionne, quoi. Les composants sont en place. Les composantes sont en place. Si j'ai envie d'une nouvelle tasse, ok, mais j'en ai déjà 6 dans le placard, tu vois. Enfin, bon, au moment, l'urgence n'est pas là, quoi. Il n'y a pas d'urgence, en fait.
Ce que je trouve assez aussi agréable avec cette idée de consommer moins mais consommer mieux, c'est que ce que tu achètes, notamment quand c'est un objet matériel, quoi, peut acquérir une qualité qui transcende la matérialité. Manière très compliquée de dire qu'on peut projeter des sentiments dans les objets. L'Apple Watch m'emmerde. Ça fait des semaines que j'ai pas porté mon Apple Watch. J'ai une montre au poignet qui est une montre violette que j'ai achetée il y a quelques mois. Parce que ça fait quelques temps que je voulais acheter une nouvelle montre. Et tu vois, c'est mon compagnon de route, elle a déjà fait un paquet de kilomètres avec moi. Et cette montre, si tout va bien, me survivra. Et je trouve ça assez réconfortant. Mon système de bibliothèque, si tout va bien, me survivra. Je trouve ça aussi très réconfortant. Le Mac que j'ai devant les yeux ne me survivra pas. Et je trouve ça un peu triste. Enfin, j'ai le stylo de ma grand-mère, j'ai le presse-livre de mon grand-père, j'ai la machine à coudre de ma grand-mère. Ces outils leur ont survécu. Et quelque part à travers ces objets et ces outils, il y a un peu d'eux qui a survécu. Il y a certains de leurs choix, il y a une partie de leur identité, il y a ce qu'ils étaient. Enfin, ma grand-mère était couturière, donc avoir sa machine à coudre. C'est quand même sympathique, quoi. Et elle est utilisée, quoi. Cécile s'en sert pour coudre des vêtements. Je trouve ça 100 fois plus intéressant que de se demander quelle couleur de housse de canapé Ikea on va bien pouvoir prendre cette année. Et ça m'attriste, et je crois que c'est même plus que de la tristesse. Je sens poindre un peu de rage quand je vois la manière dont évolue le logiciel. Et quand soudainement on arrête d'acheter des licences et que le logiciel devient du service. On ne se met non plus à acheter une application, qui est une implémentation particulière d'une fonction, mais on se met à acheter une fonction. Et un bon exemple de ça, c'est OnePassword. C'est pas tout à fait pareil d'acheter OnePassword il y a 10 ans, qui était une certaine idée de la manière dont on fait un gestionnaire de mots de passe, et qui était, à mon sens, et je crois que tu es d'accord avec moi, la meilleure manière de gérer les mots de passe.
Très clairement, de loin.
Et de faire aujourd'hui OnePassword 8, qui est vendu comme un service. Avec une application universelle. Et c'est pas une question technique. Ils auraient pu faire des applications natives sur toutes les plateformes que mon raisonnement tenait quand même. Le problème n'est pas un problème technique, c'est un problème philosophique. C'est devenu un service. Et donc on ne vend plus une implémentation particulière d'une idée, on vend un service qui est la gestion de mots de passe. Et c'est devenu ce truc, même pas seulement sans corps, mais sans ombre, qui est juste la gestion de mots de passe. Et où finalement on se fiche. De ce qui fait le sel, de ce qui fait le bonheur, de ce qui fait l'envie d'acheter cette implémentation, tant que le service est rendu. Et ils se réfugient derrière ça hein, pour expliquer leur choix. Mais non, mais de toute manière, on vous rend toujours le même service. Eh ben non. Encore une fois, quoi. Ma bibliothèque Vitzeux, c'est pas tout à fait pareil qu'une bibliothèque Ikea. À la fin, elles rendent le même service. Hein. On met des livres dedans. Mais c'est pas la même chose. Et je crois que quand on perd cette distinction, on perd pas seulement du fric, quoi. On perd un peu quelque chose d'humain, quoi. Et ça m'embête un peu parce que je le vois. Enfin, on le voit évidemment dans tous les domaines, quoi. Mais on voit comment ça dégrade le domaine qui nous intéresse le plus et qui intéresse les gens qui nous écoutent, quoi. Qui est l'informatique, quoi. ça devient de plus en plus difficile de mettre du sentiment, on l'a déjà dit, hein, dans les interfaces,
c'est vrai,
dans les applications, dans nos ordinateurs. Et ça rend malheureusement des gens, ça éloigne des gens malheureusement de l'informatique, et ça rend l'informatique à tout un paquet de gens complètement intolérable. Qu'est-ce que c'est triste.
Ah.